Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour aujourd'hui. Je pourrais peut-être même en faire huit parce que j'anime une deuxième émission aujourd'hui à 17h. C'est pour ceux qui nous écoutent en direct, évidemment, qui est l'heure où l'arc-en-ciel s'est levé. Mon Dieu, que ça départ le matin déjà. C'est lundi. Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Denis Martin Chabot.
Bienvenue au quotidien.
Bien, merci, toi aussi.
Oui, oui. Donc, quatre fois bonjour. Pourquoi déjà?
Parce que tu essaies de dire quatre mots en même temps.
Et voilà, et je me fourvoie. C'est tout à fait ça. Hey, une émission vraiment le fun aujourd'hui, tout le monde. On va parler d'un livre sur un poète que vous connaissez peut-être pas. Moi, ça m'a beaucoup interpellé quand j'ai lu le livre. Ça s'appelle Le cœur ouvert sur le poète Gatien Lapointe. On va parler à Jacques Paquin, qui a dirigé ce livre sur ce poète. Et vous allez découvrir une autre facette. Il a été critique artistique et littéraire, entre autres. On va parler de tout ça. Et évidemment, j'ai au bout du fil Daniel Rioux. Salut Daniel.
Bonjour, bonjour Denis Martin, bonjour à tout le monde.
On parle de quoi aujourd'hui à ta chronique?
Ben, moi qui suis une extravertie, puis quand je sors en public, des fois, il y a des gens qui sont introvertis, puis il y en a qui ont l'air tellement gênés, tellement pris comme dans un pain, là. Mais, faut, comme extraverti, il faut que je fasse attention, parce qu'ils ont un charme discret. Donc, c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a des extravertis avec nous ce matin?
Dans la distance?
Oui. Ben oui, à toi, Louis, t'es... Louis de Bernis, t'es extravertis ou intro?
Je crois plutôt extra avec les amis, oui.
Ah, mais avec les amis, c'est autre chose. C'est en public. Là, je vais vous faire une confidence. Oui, avec mes amis, quand je les connais, quand je me sens bien, je suis fou. Mais dans les foules, dans des réceptions, je reste tranquille dans mon coin.
Oui, puis même on pourrait parler aussi autour d'une table de travail, au travail, hein, aussi, ouais. Là, de quel genre de personnalité qu'on a. La nature extravertie, elle est extravertie, mais on peut la doser. Fait que c'est ça qu'on va apprendre un petit peu.
Tout à fait. Alors oui, toi, on va parler de quoi aujourd'hui?
D'insolite, comme d'habitude. J'ai un premier sujet qui se passe à New York, où certaines personnes pratiquent une activité, presque un sport un peu étonnant. Ils dénoncent les conducteurs qui polluent le plus et ça leur rapporte de l'argent. Un rapport est apparu récemment, c'est près $1 million qui ont été distribués ainsi à des citoyens consciencieux qui surveillent les autres. Et puis un autre sujet sur la technologie, les matelas connectés, ça existe. Eh bien, quand il y a un bug Internet, ça peut faire des misères à ceux qui les utilisent en pleine nuit.
J'ai comme... faudra qu'on explique c'est quoi tout à l'heure les matelas connectés, mais disons que ça me fait peur un peu, ces idées-là. Surtout s'il y a un problème d'électricité aussi, puis de mourir dans son lit électrocuté. En tout cas, on verra. On peut parler aussi... On va parler de l'Ukraine à la chronique internationale avec François La Rochelle, l'ancien diplomate. Aujourd'hui, donc, c'est le 321e jour de l'année. Donc, comme cette année fait 365 jours, et non pas 366, parce qu'on n'est pas une année bissextile, ce qui veut dire qu'il reste 44 jours dans l'année, ce qui veut dire qu'il reste... 36 jours avant le réveillon de Noël. Je vous le dis, pensez à moi. Non, bon, c'est aujourd'hui aussi 1869, l'inauguration du canal de Suez en Égypte, reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge, facilitant ainsi le commerce maritime entre l'Europe et l'Asie, sans contourner l'Afrique. Imaginez que ça devait être long en titi, faire le contour de ce continent. C'est un continent en passant, là, je rappelle à certaines personnes qui semblent penser que l'Afrique, c'est un pays. 1906, Soichiro Honda, je pense que c'était sa naissance. Vous devinez pourquoi on en parle? Ben oui, c'est le fondateur de la société Honda. Il est mort le 5 août 1991. 1942, c'était la naissance de Martin Scorsese, le réalisateur états-unien, connu pour des films emblématiques comme Taxi Driver, Les Affranchis et Le Loup de Wall Street. Et aujourd'hui, donc, en ce 17 novembre, c'est la Journée internationale des étudiants. Pourquoi? Bien, cette journée commémore les événements de 1939, lorsque les étudiants tchèques furent réprimés par les nazis pour avoir protesté contre l'occupation. Fait que le printemps érable existait bien avant le printemps érable. Voilà. Elle met en lumière les droits des étudiants et leur rôle dans la société, encourageant la liberté d'expression et l'accès à une éducation de qualité. On s'en va en musique.
Ma musique sauvera pas des vies à part la mienne peut-être, mais selon les probabilités, ça risque d'être un peu tête.
Si je me fie aux analystes, j'aurais plus de chances de m'éteindre sur le champ que de faire deux fois la liste. Chaque fois qu'on bat le karma, crois-moi, c'est de toute beauté. Je m'en fous d'être sous-coté tant qu'on met des sous de côté. Parce que statistiquement parlant, ma carrière devait finir à 34 ans. Encore un tour de magie, encore un tour de France. Encore au goût du jour, ça doit être mon jour de chance. Encore un tour de force, fait tourner la roue de fortune. Chaque matin, je poursuis mes rêves, snooze button. Encore un dernier verre, la fête est jamais finie. Get rich or die trying, stay un 50-50. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Sauvera pas des vies peut-être à part la tienne. Et si c'est tout ce que j'accomplis, ça peut valoir la peine. Je suis pas à plaindre, j'ai déjà gagné mon ciel. L'exception à la règle, pourtant j'ai rien d'exceptionnel. This hometown hero retourne à ground zero. Sachant que mes enfants seront confos quand ils grandiront. Pourtant statistiquement parlant, j'aurais dû faire le deux tiers de mes parents. Encore un tour de magie, encore un tour de table. On est encore en business, ça doit être un jour ouvrable. Encore un coup de dé, encore un coup du destin. J'en suis 60% sûr, 40% certain. Encore un dernier verre, un peu d'eau dans mon vin. Ça m'a permis d'enfin pouvoir le voir à moitié plein. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses. On est encore en business, ça doit être un jour ouvrable. Encore un coup de dé, encore un coup du destin. J'en suis 60% sûr, 40% certain. Encore un dernier verre, un peu d'eau dans mon vin. Ça m'a permis d'enfin pouvoir le voir à moitié plein. Encore du mal à croire qu'on en est sorti sain et sauf. Comme quoi des fois le hasard fait bien les choses.
La chanson Par hasard, c'est une collaboration de Loud et de Ariane Moffat.
Un petit regard maintenant sur l'actualité. Dans la Presse Plus ce matin, le Québec se distingue tristement. Les projections de la Société canadienne du cancer pour 2025 indiquent que la province enregistrera le taux d'incidence du cancer le plus élevé au Canada. Ce constat, qui place le Québec à 663,9 cas par 100 000 habitants, est lié en partie au fait que la province a longtemps affiché un fort taux de tabagisme. Cet historique est directement lié au cancer du poumon, qui demeure la principale cause de décès par cancer au pays, responsable d'environ un quart de toutes les mortalités oncologiques, donc dues au cancer. Plusieurs défis persistent. D'abord, le cancer du sein affiche l'incidence la plus élevée au Québec, mais le dépistage n'est offert qu'à partir de 50 ans, un âge jugé trop tardif par le milieu médical et l'Institut national d'excellence en santé. Le ministère de la Santé dit étudier la possibilité d'abaisser cet âge. De plus, malgré l'existence de la vaccination contre le virus du papillome humain, hein, le VPH, et de nombreux tests pour le cancer du col de l'utérus, leur déploiement est inégal, ce qui ralentit les efforts pour éliminer le cancer, ce cancer qui est évitable, d'ailleurs que le gouvernement du Québec veut éliminer d'ici 2040. Journal de Montréal ce matin, le suspense est total aux communes, alors que le gouvernement minoritaire de Mark Carney s'apprête à faire voter l'adoption de son budget. À l'heure actuelle, le gouvernement a besoin de deux voix pour obtenir cette majorité. Sinon, le pays pourrait se retrouver à nouveau en élection pour la deuxième fois en 7 mois. Bien que le budget soit jugé peu controversé, le gouvernement refuse de le modifier pour s'assurer de son appui, adoptant donc une position que c'est à prendre ou à laisser. Le Bloc québécois a déjà annoncé qu'il votera contre, plaçant le Nouveau Parti démocratique, le NPD, et les conservateurs au centre de toutes les attentions. Ces deux partis sont vus comme des boîtes à surprises. Les conservateurs, malgré une rhétorique anti-budget, hésitent à provoquer des élections, craignant un affaiblissement de leur chef et une potentielle, ou en fait une nouvelle victoire libérale, telle que le prévoient les sondages. Quant au NPD, il est divisé et il accuse un manque de financement. Toujours en politique, selon Le Devoir ce matin, le Conseil national du PQ a eu lieu donc ce week-end et son chef, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a défendu son projet de monnaie québécoise prônant la discipline face aux critiques. Il a affirmé que l'indépendance est le moyen pour le Québec de devenir un pays riche capable d'utiliser ses impôts en fonction de ses propres intérêts sans le gaspillage canadien, ce sont ses mots. Le chef péquiste a notamment proposé qu'un Québec indépendant adopte sa propre monnaie après une période de transition de 10 ans, une rupture qui a suscité les railleries immédiates des libéraux. Ces derniers y voient une menace d'instabilité économique et la rupture totale de l'union économique avec le Canada. Saint-Pierre Plamondon a rétorqué que son parti ne faisait que démontrer son ambition pour le Québec. La presse toujours. Ben oui, ce matin, on apprend que les Alouettes de Montréal ont été déplumées par les Rough Riders de la Saskatchewan, perdant la Coupe Grey 25-17. Le quart arrière, Davis Alexander, a connu sa première défaite attribuant son propre rendement. Un revirement crucial qui est survenu à la fin de match lorsque le quart arrière spécialiste Shea Patterson a échappé le ballon dans la zone payante, privant les Alouettes d'une remontée presque certaine. Secoué et inconsolable, Patterson a été réconforté par ses coéquipiers. Malgré un match serré, les quatre virements commis par Montréal ont permis aux Rough Riders de s'imposer, leur offrant le trophée de la Coupe Grey. Des experts et expertes de la santé et des milieux communautaires lancent un cri de ralliement pour que le chemsex, c'est-à-dire l'usage de drogues de synthèse en contexte sexuel, on parle ici de crystal meth et de GHB, soit reconnu comme un enjeu de santé publique au Québec. Selon eux, ce phénomène qui touche principalement les hommes de la diversité sexuelle et les personnes trans et non-binaires augmente les risques de troubles psychotiques, de surdoses et de tentatives de suicide. Un adepte, Luc, témoigne de la façon dont le crystal meth l'a amené à un épisode psychotique et une tentative de suicide. Et les intervenants craignent d'atteindre un point de non-retour en raison de la difficulté à répondre à la demande croissante, surtout depuis la pandémie. Les services de soutien sont insuffisants et trop centralisés à Montréal. Les experts et les expertes déplorent le manque de prévention des autorités, soulignant que les enjeux des communautés LGBTQIA+ sont trop souvent associés à des choix de vie plutôt qu'à des questions de vulnérabilité.
BB Club et sa chanson ou leur chanson Amaro.
Cet été, à l'émission au quotidien que j'ai animée en remplacement d'Hélène, j'ai reçu Olivier Niquette, qui est un humoriste, qui fait des livres et tout ça. Olivier a écrit un livre sur être introverti. Il est probablement le plus connu des introvertis du Québec. Et c'était étonnant parce que dans l'entrevue, au départ, il était très intimidé ou très refermé sur lui-même. Et finalement, il s'est allumé pendant la discussion. Alors, c'est intéressant quand on parle d'introversion ou d'être introverti. Daniel, c'est ton sujet aujourd'hui.
Oui, puis c'est un sujet que j'ai trouvé dans le magazine Sciences humaines de février dernier. Et puis, bon, on dit qu'ils sont mous, puis ils sont pas drôles, sont impassibles, sont même secrets, sont de mauvaise compagnie. Pas du tout, mais sachez que les introvertis n'ont pas la cote en France, alors qu'il en est tout autrement dans les pays asiatiques où justement l'humilité, le calme sont davantage valorisés que le bagou et l'affirmation de soi. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est au psychanalyste Carl Jung qu'on doit en 1921 la première définition de l'introversion qui l'oppose, lui, à l'extraversion. Dans ce dernier cas, selon le psychiatre suisse, l'énergie psychique ou libido est tournée vers l'extérieur. Chez les introvertis, c'est l'inverse. La libido est tournée vers soi-même et les individus, eux, préfèrent la solitude, concentrés qu'ils sont sur leur monde intérieur. Mais dans les soirées entre amis, ils se tiennent en général en retrait, parlent peu et semblent mal à l'aise. Alors que les extrovertis, quant à eux, on connaît, hein, ils prennent le plancher, ils ont le contact facile, ils mènent la danse, ils parlent fort, puis semblent toujours plus épanouis. Au travail, les introvertis n'aiment pas la précipitation. D'ailleurs, ils détestent faire plusieurs choses à la fois. Ils préfèrent s'isoler. Ils vont chercher le consensus plutôt que la confrontation. Alors que les extrovertis, eux, foncent avec assurance, adorent le multitâche et prennent des risques et vont facilement au conflit. Mais ces excès n'ont-ils que des avantages? Bien écoutez, un introverti qui prend le temps d'étudier une question sous tous ses angles avant de se lancer dans une proposition, qui sait aussi écouter autrui, hein, sans chercher à imposer son point de vue à tout prix, n'est-il pas finalement plus efficace au travail et plus à même d'exercer des postes à responsabilité que justement un extraverti égocentrique et intransigeant? On pose la question. D'ailleurs, vous pourrez remarquer dans votre milieu de travail. Quelqu'un de fidèle qui préfère les échanges intimes et transparents aux conversations futiles, on dit le small talk, ouais, qui parle moins mais agit plus, qui est sensible aux états d'âme de l'autre, donc avec l'empathie, et n'est-il pas aussi un meilleur ami et partenaire sur le long terme? Le mot que je vois revenir souvent dans les textes, c'est « force tranquille ». Les introvertis dissimulent leurs véritables atouts derrière une apparente timidité et une trop grande modestie. C'est la position que défend l'essayiste américaine Susan Cain dans son best-seller « La force des discrets ». D'ailleurs, elle vante toute une palette de mérites des introvertis. À l'instar, justement, de célèbres personnalités, il y a des personnalités connues, hein, Newton, Einstein, Spielberg, même J.K. Rowling. La prédisposition à prendre du recul et à travailler dans le calme peut être à l'origine de remarquables prouesses intellectuelles ou artistiques. Un qu'on penserait, puis j'ai été bien étonnée, j'aurais pas pensé, mais Barack Obama, on peut être introverti et devenir un leader très charismatique, et c'est une de ses grandes qualités à lui. Mmh. Une des grandes qualités, justement, toujours parlant de qualité des introvertis, est leur ténacité. Si les extravertis, eux, sont spontanément plus enthousiastes et énergiques, ils sont aussi plus sensibles à la récompense, ont tendance à agir vite et à prendre plus de risques, ce qui peut s'avérer problématique dans certains métiers, comme chez les négociateurs, là où il faut prendre son temps, ou encore des chefs d'entreprise, c'est ce que relève Susan Cain. Les introvertis, quant à eux, réussissent mieux à réguler leurs désirs et leur excitation. Donc, ils prennent du temps pour réfléchir, j'imagine. Hein? On pense à M. Obama, il était toujours à l'écoute, on pourrait le remarquer. Une expérience auprès des négociateurs aussi montre que traders dans le texte, mais moi je dis négociateurs, montre que les plus performants performants étaient des introvertis stables émotionnellement. Les introvertis réfléchissent justement avant d'agir, digèrent l'information en profondeur, se concentrent plus longtemps sur une tâche et baissent moins facilement les bras et travaillent avec plus de finesse, c'est ce qu'ajoute Susan Cain. Selon la psychologue Laurie Hawkes, qui est autrice de La force des introvertis, ils sont tout d'abord à l'aise avec leur monde interne et supportent bien la solitude. Ils ne ressentent pas le besoin de s'agiter. Leur monde intérieur est suffisamment riche pour se nourrir de lecture, de musique, de discussions en petits comités. Ils seraient également plus attentifs aux autres, donc l'empathie, moins esclaves des modes, hein, moins influençables, plus modestes, plus autonomes, plus pacifiques et plus économes, tant ils préfèrent viser la quantité juste et nécessaire. Plutôt qu'un handicap, l'introversion serait donc un véritable atout, recélant un potentiel créatif et une capacité à développer des relations sociales de qualité. Mais ce n'est pas une règle. Tous les introvertis ne se ressemblent pas. Il en existe aussi des égocentriques, des hautains et inefficaces, tout comme il y a des extrovertis empathiques, mesuré et profond. Donc, c'est pas homogène. C'est d'ailleurs, on parle d'une personnalité à multiples facettes. Et plusieurs chercheurs en psychologie de la personnalité ont élaboré des tests qui évaluent notre niveau d'introversion parmi d'autres facteurs, d'autres traits de personnalité. Et le test le mieux, qui est le plus coté, si je puis dire, c'est le Big Five, qui est proposé par Lewis Goldberg en 1981. C'est d'ailleurs le mieux référencé dans la recherche scientifique jusqu'à ce jour. Alors, au-delà de l'introversion et l'extraversion, le Big Five mesure, c'est quoi sur le Big Five? Ben, il mesure l'ouverture d'esprit. Il y a 5 volets. L'ouverture d'esprit, le caractère consciencieux et fiable, l'amabilité et l'altruisme, et enfin, la stabilité émotionnelle. Ces 5 facteurs se combinent pour former des profils de personnalité très variés. Donc, on a tous ça. Un de ces 5 facteurs-là en nous, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Le Big Five autorise des degrés dans les très relevés. L'introversion n'est pas une catégorie homogène, comme je viens de dire. Il faut considérer la personnalité de manière graduelle sur un continuum avec des différences d'intensité, justement. C'est ce que souligne Michel Ancène, qui lui est professeur de psychologie à l'Université de Liège en Belgique. Introverti, on peut donc l'être un peu, modérément ou extrêmement. Si Susan Cain et Laurie Hawkes situent le nombre d'introvertis entre 20 et 50% de la population, là, Michel Ancène estime pour sa part à 7% et 2,5 seraient considérés comme extrêmement introvertis. Donc, sont assez rares les extrêmement introvertis, selon lui. Toujours selon lui, les qualités cachées des introvertis dépendent d'autres aspects de la personnalité. Et l'introversion peut aussi devenir un facteur d'inadaptation lorsqu'elle va de pair avec une forte instabilité émotionnelle. Alors, on peut, dans ce cas-là, mener à l'isolement, la fermeture, la dépendance affective ou encore la dépression. Ça va loin, là. Pour Susan Cain et Laurie Hawkes, il existerait une forte corrélation entre l'introversion et la sensibilité ou l'anxiété. Les personnes introverties seraient plus souvent des anxieux et des hypersensibles. Encore là, Michel Ancène, cela n'a pas été démontré scientifiquement. Donc, il faut faire attention. La stabilité émotionnelle et l'extraversion et l'introversion sont des dimensions indépendantes parce qu'il y aurait donc, selon lui, autant d'extravertis anxieux, et ça je le crois, que d'introvertis émotionnellement stables. Enfin, il faut retenir aussi que les profils d'introvertis et extravertis purs ne représenteraient finalement que 14% de la population. Donc, la plupart d'entre nous, vous, moi et tout le monde qui nous écoute, on se montrerait introverti ou extraverti selon les circonstances. Et là, on emploie un nouveau mot, ambiverti.
Ah?
Ouais. Parce qu'on pourrait être introverti un jour, mais pas toujours. si certaines facettes de notre personnalité, comme l'ouverture aux autres ou l'anxiété, peuvent se manifester très tôt dans l'enfance, elles ne sont pas pour autant immuables, parce que la personnalité change avec l'âge et en fonction des rôles sociaux que l'individu va occuper dans sa vie. L'extraversion, justement, a également tendance à diminuer en vieillissant. Je me vois pas descendre la côte Berry à bicyclette comme une vraie folle. Et plus, je l'ai déjà faite, et plus particulièrement la recherche de sensations fortes, donc on est un petit peu plus calme, on se calme un peu le pompon, et l'excitabilité, le dynamisme, explique Michel Ancienne. Les extravertis se rapprocheraient donc davantage des introvertis au fil de l'âge. Mais s'ils conservaient leur côté grégaire, chaleureux et affirmatif. Tout ça en gardant cela. Là. De la même manière, certains introvertis apprennent avec le temps à lâcher prise, hein, à nouer avec des relations, à se confronter à d'autres et à s'affirmer davantage, ce qui n'est pas mauvais. Lorsqu'on interroge les introvertis, ils disent majoritairement qu'ils veulent devenir plus extravertis car ce comportement est associé à plus de sociabilité, d'assurance et d'émotion. Alors, si les introvertis ressentent donc le besoin de s'extérioriser davantage, d'autres vivent très bien leur vie en restant en retrait et n'aspirent pas du tout à changer. Donc, il est possible aussi que leur entourage apprenne à mieux aussi les connaître au fil du temps et découvre ainsi leur talent caché, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de profil globalement préférable à l'autre. À chacun de trouver la dose, justement, on termine l'article comme ça, la dose d'introversion ou d'extraversion qui nous réussit le mieux.
Tout à fait. Hey, hein? C'était super intéressant et ça nous apprend beaucoup de choses sur nos différents traits de personnalité. Daniel, on se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait. Au revoir.
Merci. Et moi, j'ai oublié de vous faire la météo aujourd'hui. C'est de la neige presque partout au Québec et en Ontario. Il y a même des avis de bourrasques de neige dans le sud ontarien. Il y a de la pluie prévue dans l'est du Québec, du soleil dans le nord ontarien. Les températures pour ces deux provinces, entre moins 4 dans le nord et plus 3 dans le sud. Et puis, c'est de la neige mêlée de pluie dans les provinces maritimes. Moins 3 à plus 3. Et il y a aussi de la pluie à Terre-Neuve, 8 à 12. Et puis, c'est plus chaud dans l'ouest du pays. Après la pause, c'est la chronique de Louis de Bernis.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Oh, tourne pas rond, caché quelque part au fond des bois. Et laissez passer les saisons, on va faire comme la première fois. Dans ce sol de chez nos parents, quand j'ai promis que j'allais être là pour traverser les saisons.
Traverser les saisons, une chanson de Ariane Simard.
Et c'est le temps d'aller dans l'inusité avec le pas trop inusité Louis de Vernis. Louis, il y a des choses intéressantes. Dénoncer à New York, on dénonce des conducteurs qui polluent, puis on se fait de l'argent avec ça.
Oui, la délation, ce sport magnifique que pratiquent certains. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est ce qu'on peut dire, et c'est à New York que ça se passe. Les véhicules commerciaux, les bus, les camions, les camionnettes de livraison sont tenus, c'est la loi, de couper le moteur lorsqu'ils patientent dans la ville, dans la grosse pomme. Depuis janvier 2018, c'est en place. Les conducteurs risquent ensuite une amende s'ils laissent le moteur ronronner sans avancer. Pas plus de 3 minutes pour les camions, par exemple, c'est tout à fait précisé. Afin de faire respecter cette obligation, la ville de New York ne s'appuie pas uniquement sur les policiers. Elle mobilise aussi les citoyens qui peuvent recevoir une partie de la somme perçue s'ils dénoncent les contrevenants. Il suffit tout simplement de sortir son téléphone intelligent et de filmer l'infraction. Le signalant reçoit ensuite 25% de l'amende qui peut aller de 300 à 2000 dollars américains, pour les récidivistes notamment. À ce petit jeu, certains dégagent des bénéfices plus qu'intéressants. Certains informateurs de rue empochent près $1 million, s'enflamme par exemple le New York Post.
Est-ce que c'est taxable?
Là, il faudrait vérifier ensuite avec un comptable ce qu'il faut en faire, mais c'est une bonne question, effectivement. En tout cas, le New York Post se base sur un document du Bureau des procès et audiences administratives de la ville de New York. Il précise les sommes perçues par les plus gros contributeurs au dispositif. L'un d'eux aurait, par exemple, empoché la coquette somme de $895,737. Un montant toutefois nié par la personne en question, mais le rapport du tribunal l'atteste. 4 autres agents de l'environnement ont amassé plus de $500,000 et sont aussi cités dans le document. De plus en plus de New Yorkais semblent se laisser séduire par l'argent facile, le nombre de dossiers de chasseurs de primes traités par le département de l'environnement ayant explosé ces dernières années, passant de 49 000 en 2022 à 124 000 en 2024, constate le New York Post. Plus de 100 000 dossiers ont été déposés déjà pour cette année 2025. L'administration précise néanmoins que les efforts sont concentrés sur le cœur économique de la grosse pomme et que les quartiers plus populaires, comme Harlem, le sud du Bronx, Brownsville, Brooklyn ou le nord de Staten Island, sont considérés comme des communautés de justice environnementale. Cette mesure, en tout cas, soutenue notamment par des associations qui militent pour la qualité de l'air à New York, s'inscrit dans une politique plus large qui vise à réduire la pollution liée aux véhicules thermiques. La pollution de l'air est mortelle, elle provoque des cancers, des démences, de l'asthme et 3200 décès prématurés chaque année à New York, pointe le collectif New York Air Propre, relayé par le Washington Post. En janvier, un péage urbain a également été mis en place pour tenter de limiter le nombre de voitures en journée à Manhattan. Selon une étude du Bureau des recherches économiques, cela a permis au moins d'augmenter la vitesse de circulation de 11% dans le quartier des affaires. On est donc moins pris dans le trafic. Mais les bénéfices en matière de qualité de l'air restent encore à prouver. En attendant, en tout cas, pour tous les véhicules qui sont à l'arrêt pendant quelques minutes, il y a souvent des gens qui sortent leur téléphone et qui se font un beau paquet d'argent.
En tout cas, c'est taxable, $1 million, on enlève à peu près 30% ici au Canada de taxes, ça fait $700,000.
Ça fait un bon revenu.
Ouais, bon, c'est peut-être une pratique qu'on veut plus ou moins encourager, mais cela dit, ça existe. Alors, on va parler d'un autre sujet qui m'inquiète, des matelas connectés. J'espère que c'est pas connecté au 220. Des rails à cause d'un bug Internet, puis ça fait suer du monde, ça.
Oui, ça fait littéralement suer du monde, effectivement. Détenteurs de matelas connectés ont été tirés de leur sommeil récemment par des lits complètement déréglés. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la marque américaine 8Sleep. Elle est spécialisée dans les matelas et accessoires de sommeil connectés. Ils sont pilotés à distance et ces équipements sont censés apporter un confort de sommeil 2.0 en gérant notamment l'inclinaison du matelas et la température durant la nuit. Le seul revers de la médaille, en cas de bug internet, la promesse n'est plus tenue. Pire, les systèmes peuvent s'emballer au point de pourrir les nuits des utilisateurs. Un épisode de ce type s'est produit assez récemment, pendant la panne mondiale de Amazon Web Services, que nous avons vu le 19 et 20 octobre 2025. Pas de chance pour les clients d'8Sleep, les serveurs de la société sont hébergés chez Amazon et ont été lourdement impactés par ce bug. L'application, qui permet notamment de gérer à distance les paramètres des matelas, a complètement déraillé. C'est lit haut de gamme et programmable qui nécessite un abonnement annuel pouvant aller jusqu'à 400 $ américains, sont devenus hautement inconfortables pendant la nuit. Des clients de la marque assurent que leur matelas se relevait tout seul un peu en pleine nuit, bougeait dans tous les sens, que la température surtout se déréglait ou que les LED s'illuminaient soudainement dans la chambre pour un beau concert de lumière. Plusieurs assurent avoir été tirés du sommeil en sueur par des températures devenues complètement insupportables. Ce n'est pas l'expérience que nous souhaitons offrir et je tiens à m'en excuser, a bien sûr réagi Matteo Franceschi, le directeur général d'8Sleep. Cet incident, qui n'a pas prêté à grandes conséquences, hein, personne n'a été blessé heureusement, a mis en évidence les limites de la domotique et de la technologie. De plus en plus d'équipements de la vie quotidienne sont désormais dépendants des serveurs et du cloud, le nuage. En cas de panne, rare mais évitable, les implications sont difficiles à anticiper. Pour le professeur Alan Woodward, professeur d'informatique à l'université de Surrey en Angleterre, la complexité est toujours source de problèmes. Plus une fonctionnalité est complexe, plus il est difficile de comprendre ce qui se passera en cas de défaillance de certains éléments de la chaîne informatique. Nous sommes donc dans un monde de plus en plus connecté et à chaque bug, il y aura peut-être des nouvelles insolites à vous partager.
Ben oui, on pourrait commencer par ma maison, qui est une maison avec beaucoup de domotique, hein, avec ILO et tout ça. Ben, quand il y a une panne d'électricité et que mon modem se remet en marche, parfois, il y a certaines des machines qui sont branchées sur mon ILO. Ça se débranche, ça se désactive. Et parfois, ça m'est arrivé de rentrer à la maison. Oups, il n'y avait pas de chauffage.
Oui, ça peut arriver.
Ça arrive, ouais. Alors, morale de cette histoire, c'est bien. Plus c'est compliqué, plus ça l'est.
Exactement.
Merci beaucoup, Louis.
Avec plaisir.
Au revoir, musique.
Magnolia, Magnolia, je ne sais plus qui croire. Au bout de mon histoire, je serai où, je serai quoi? Je te regarde fleurir d'avril en avril. Moi je ne tiens qu'un fil, Magnolia, Magnolia. Serais-je un oiseau ou un arbre comme toi? Ou un rien pantoute flottant dans l'au-delà? Verrais-je défiler comme au cinéma toutes les scènes de ma vie? Magnolia, 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 j'ai déjà cru en Dieu. Je me revois garçon, la foi dans les yeux. Dans ma soutane blanche, j'agitais l'encensoir. Sûr que les filles du dimanche seraient là pour me voir. J'apprivoisais les anges, je faisais de l'œil aux démons. Petit soldat étrange en guerre de religion. Aujourd'hui les églises sont à vendre. Je me cherche un mystère. Magnolia, Magnolia, serais-je un oiseau ou un arbre comme toi? Magnolia, Magnolia, t'as pas l'air de t'en faire, mais l'univers recule à chaque année lumière, et je me sens ridicule, particule de poussière sous la simple beauté de tes fleurs passagères. Je ne sais plus qui croire, la science, la poésie. Au bout de mon histoire, ce sera le jour ou la nuit, si par hasard je croise l'auteur de tout ça est-elle une femme? Se souvient-elle de moi? Qui te regardait fleurir? Magnolia, magnolia. Serais-je un oiseau ou un arbre comme toi?
Michel Rivard et sa chanson Magnolia, Magnolia.
Dans la presse du 16 novembre dernier, près de 15 % de la population canadienne serait affectée par la dépression saisonnière, un trouble récurrent, souvent confondu avec les simples blues de l'hiver ou bleus de l'hiver. Eh bien, le docteur Gustavo Turecki, psychiatre, souligne qu'il s'agit d'une forme clinique de dépression affectant significativement l'énergie et la capacité de fonctionner. Hein, ces fameux matins grisounets, tristounets, puis on se dit « Ah, oh, j'ai le goût de rien faire, puis je reste au lit », bien c'est ça. Non, j'en fais une blague, mais c'est sérieux, là. Bien que la forme classique survienne en automne et en hiver, elle peut apparaître à toute saison. Il s'agit donc d'un manque de lumière naturelle qui est le facteur majeur de cette situation parce qu'il perturbe ce qu'on appelle le rythme circadien, favorisant une fatigue et une somnolence accrue, évoquant un instinct d'hibernation. Pour contrer les symptômes, la luminothérapie est recommandée en première intention avec une exposition de 30 minutes à 10 000 lux le matin. Il est essentiel de ne pas sous-estimer la dépression saisonnière et de consulter un professionnel si les symptômes persistent. Dans le Devoir du 15 novembre, l'approche des organisations d'aide aux personnes handicapées est en pleine mutation. Fini la pitié et place à l'autonomisation et à l'humour. La stratégie axée sur les droits et non sur la victimisation gagne du terrain. C'est le cas de Mina, une jeune fille de 12 ans à Gaza, qui, après avoir perdu une jambe, réapprend à marcher grâce à une prothèse fournie par des ONG comme Humanité et Inclusion. Leur directrice, Anne Delorme, affirme « On ne considère pas le handicap comme un problème à corriger. Notre but, c'est d'inspirer la solidarité plutôt que la pitié. L'accent est mis sur la dignité et les aspirations, comme le rêve de Mena de retourner à l'école. » Au Québec, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a aussi prouvé le succès de cette nouvelle vision avec sa campagne « Longue vie au TANA ». Elle met en valeur la vitalité de ces jeunes patients, montrant qu'en les aidant à guérir, on leur permet de retrouver leurs habitudes et leur joie de vivre. Toujours dans le Devoir, le 14 novembre, les partis d'opposition libérale et solidaire accusent le gouvernement du Québec de négligence face à la santé mentale des détenus. Une enquête du Devoir a révélé que le taux de suicide dans les prisons provinciales est considérablement plus élevé qu'ailleurs. La situation est d'autant plus critique que plus de 60 % des établissements n'offrent pas de consultation avec un psychiatre, malgré une forte concentration de troubles mentaux graves chez les détenus. Les oppositions pressent le gouvernement Legault d'agir pour garantir la sécurité publique et la réinsertion, car on ne peut pas parler sérieusement de réinsertion si on abandonne les gens sans soutien. Le protecteur du citoyen, lui-même impatient, a déclenché une enquête spéciale sur l'urgence de la situation. Le ministre de la Sécurité publique reconnaît la prévention du suicide comme une priorité, mais la pénurie de personnel dans le réseau correctionnel complique les interventions de première ligne. Radio-Canada, 14 novembre, le gouvernement Legault met fin à la subvention de 2,4 millions de dollars qui permettait à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNESST, d'employer 18 conseillers et conseillères dédiés à la promotion de la santé psychologique au travail. Cette décision entraîne le non-renouvellement de contrats et est vivement dénoncée par le syndicat des professionnels et professionnelles de la santé, pardon, du gouvernement du Québec, le SPJQ. L'organisme craint une surcharge de travail pour les conseillers et conseillères restants, ce qui est jugé ironique puisque la surcharge est elle-même un risque psychosocial que l'équipe est chargée de prévenir. Cela survient alors que la loi oblige maintenant les employeurs à prendre en charge des risques comme le stress et le harcèlement. Le SPJQ dénonce une incohérence entre les obligations légales et la réduction du soutien gouvernemental. La CNESST se veut rassurante, affirmant que les services seront maintenus par ses autres conseillers et conseillères d'autres services, une affirmation contestée par le syndicat. Journal de Montréal du 15 novembre, les médecins en soins palliatifs au Québec craignent que la loi 2 qui réforme la rémunération médicale n'érode davantage la qualité de leurs services. Selon la docteure Olivia Nguyen, présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, une approche axée sur le débit est contraire à la pratique de soins palliatifs qui exige une approche plus humaine et qui prend plus de temps. La loi risque de pousser les médecins de famille qui assurent la majorité des soins palliatifs à délaisser cette pratique pour se concentrer sur la prise en charge de première ligne afin d'atteindre les cibles ministérielles. Déjà étirées, les équipes de soins palliatifs craignent ne pas survivre à cet exode. La docteure Nguyen déplore un découragement jamais vu chez les professionnels passionnés et demande au gouvernement de donner à cette médecine humaine les moyens de pratiquer. Dans un communiqué du 14 novembre, Telaide Montréal a décerné le prix Bien-être Jeannette Bertrand 2025 à Marjolaine Saint-Jules, travailleuse sociale et cofondatrice de l'organisme Rêve à nous. Cette distinction, remise par Jeannette Bertrand elle-même lors de la soirée bénéfice de Telaide, souligne l'engagement exceptionnel de Mme Saint-Jules envers l'inclusion et le bien-être collectif. Engagée bénévolement depuis plus de 23 ans, la lauréate est reconnue pour son rôle actuel dans la création de Habitation Rêve à nous, un projet de logement adapté favorisant l'autonomie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Cette bourse, le prix et la bourse est de 2 500 $, honore ceux et celles qui, comme Marjolaine Saint-Jules, transforment leur communauté dans l'ombre grâce à leur empathie et leur initiative. Dans la presse du 14 novembre, 8 mois après la signature d'une entente historique de 305 millions de dollars entre Québec et Ottawa pour les maladies rares, les organismes de patients et patientes n'ont toujours pas vu la couleur de cet argent. Selon la presse, donc, cette entente signée en 2025 faisait partie d'une stratégie fédérale visant à améliorer le dépistage et le traitement des millions de Canadiens qui subissent ces maladies. Le regroupement des Québécois des maladies orphelines, RQMO, dénonce le manque de transparence. Son directeur, Jonathan Pratt, déplore l'absence de réponse sur la façon dont cet argent devait être utilisé. Un tiers de la somme aurait dû être dépensée avant le 31 mars 2025. Sollicité, le ministère de la Santé du Québec a simplement indiqué que le financement aide à soutenir l'inscription de médicaments sans fournir de ventilation précise. La députée libérale Marois Risky s'est saisie du dossier, affirmant que personne dans le réseau ne sait où est cet argent, alors que le financement est crucial pour la recherche, l'amélioration du diagnostic et l'accès au traitement.
Peut-être qu'un jour, tu m'aimeras un peu plus. Peut-être qu'un jour, tu m'aimeras comme moi. Je t'aime, mais je ne serai plus là pour braver ta tempête. Non, je ne serai plus là, 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 pour te prendre dans mes bras. Non, je ne serai plus là pour toutes tes prises de tête. Non, je ne serai plus là, 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 pour danser avec toi. Car la vie accueille ceux qui s'aiment vraiment.
vraiment il a vie. J'accueille, je les traîne au gré du vent. Oui, la vie accueille ceux qui s'aiment vraiment. Vraiment, oui, la vie, j'accueille, j'enlace au fil du temps. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras un peu mieux. Peut-être qu'un jour tu m'aimeras comme moi. Je t'aime, je ne serai plus là pour braver ta tempête.
Moi, je t'aime, une chanson de Dominique Fils-Aimé.
Ah, moi aussi, je t'aime, mon cher Mathieu, mais c'est de l'amour très, très, très fraternel. Ah oui, une petite nouvelle ce matin, en fait, une grosse nouvelle ce matin dans la presse. Le président états-unien Donald Trump a surpris en annonçant que les républicains de la Chambre devraient voter en faveur de la publication des documents relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein. Après s'être initialement opposé à la mesure, on sait, là, Jeffrey Epstein, c'est ce millionnaire qui a été accusé et reconnu coupable de pédophilie, notamment envers de jeunes femmes, et bon, il a été emprisonné et est mort en prison. Alors, ce revirement intervient alors que les démocrates et certains républicains poussent pour un projet de loi visant à obliger le département de la justice à divulguer davantage de dossiers concernant le réseau de trafic sexuel d'Epstein et l'enquête sur sa mort. On sait que Trump avait justifié sa position en affirmant que les républicains n'avaient rien à cacher. Il dénonçait aussi en même temps cette affaire comme une supercherie démocrate. C'est quand même intéressant parce que c'est quand même les républicains qui, pendant toute la campagne de 2024, nous ont rabâché les oreilles en nous disant qu'il y avait un complot pour cacher tout ça. Alors, ouais, bien là, quand le complot implique peut-être Donald Trump, c'est une autre histoire, comme dirait l'autre. Eh bien, ce changement de position reconnaît implicitement que les partisans et partisanes de la mesure disposent d'une majorité suffisante à la Chambre pour forcer la divulgation de ces dossiers. Il y a des analystes aux États-Unis et aussi au Canada qui disent que Donald Trump ne voulait pas perdre la face, alors a tout simplement décidé d'appuyer la divulgation de ces divers documents sur l'affaire célèbre de Jeffrey Epstein, désormais célèbre de Jeffrey Epstein. J'ai un petit peu le temps d'aller faire un petit bout de météo. C'est de la neige presque partout au Québec et en Ontario. Il y a même des avis de bourrasques de neige dans le sud ontarien, là, de la poudrerie peut-être au sol, hein, parce que la neige est assez granuleuse, en fait plutôt molle ou plus, comme des petits flocons doux, là. Alors, avec un petit peu de vent, ça fait un peu de poudrerie, c'est pour ça qu'on nous l'avise. Et d'ailleurs, il y a de la pluie ailleurs, hein, dans l'est du Québec, et du soleil dans le nord ontarien. Dans les deux provinces, là, ça va de moins 4 et à plus 3, surtout dans le sud et dans l'est du Québec. Et dans le nord ontarien, d'ailleurs, qui fait chaud. Neige mêlée de pluie dans les provinces maritimes. Les températures vont de moins 3 à plus 3. C'est de la pluie à Terre-Neuve, 8 à 12 degrés. La neige plus froid au Labrador, moins 2 à 0. Plus chaud au Manitoba, de 2 à 8 degrés, en fait, dans l'ouest du pays. C'est du soleil au Manitoba, et dans le sud aussi de la Saskatchewan. Nuageux ailleurs. Il y a de la pluie à Saskatoon et c'est de la pluie d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique. Mais ça, c'est pas étonnant. Il pleut souvent dans ce coin-là. Après la pause, c'est notre chronique Actualité internationale avec l'ancien diplomate canadien François Larochelle. Et on reçoit l'auteur Jacques Papin pour parler de son livre « Le cœur ouvert » sur le poète Gratien Lapointe.
Vous écoutez au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Chanson La Dérive.
Eh bien, on va parler d'actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate canadien. Bienvenue, re-bonjour, re-bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui se prépare à un long et froid hiver. La Russie de Vladimir Poutine continue de frapper quotidiennement les approvisionnements énergétiques et le réseau électrique de l'Ukraine. Ces attaques causent des coupures d'électricité majeures, mais surtout, elles mènent à leur lot de destruction et de perte de vie.
Oui, absolument. Les frappes massives de drones et de missiles russes se poursuivent sans relâche. Seulement en octobre, on dit que la Russie aurait lancé près de 300 missiles balistiques sur l'Ukraine, ce qui serait le nombre mensuel le plus élevé depuis le début de la guerre. Le même mois, la Russie a lancé 5300 drones. Les Ukrainiens subissent désormais des coupures de courant régulières pouvant durer jusqu'à 16 heures par jour. Et c'est froid en hiver en Ukraine. Les responsables ukrainiens craignent que ce soit leur pire hiver depuis 4 ans. La Russie vise non seulement la destruction complète du système énergétique ukrainien, mais probablement au bout du compte, celle de toute l'économie du pays.
Ouais, et sur la ligne de front, les nouvelles sont sombres.
Oui, il y a de plus en plus de signes que la ville clé de l'est de l'Ukraine, Pokrovsk, excuserai mon ukrainien, pourrait tomber, ce qui donnerait aux forces russes un coup de pouce moral et une nouvelle plateforme pour s'emparer de davantage de territoires. Ceci dit, les Russes ne sont encore qu'à environ 40 kilomètres de l'endroit où ils ont commencé leur invasion à grande échelle. En 2022, c'est pas beaucoup. Et c'est un territoire conquis au prix de centaines de milliers de soldats russes. Cependant, en prenant cette ville, Poutine espère sans doute convaincre le président Trump qu'il réalise des gains sur le champ de bataille et ainsi mettre de la pression sur Kiev pour qu'elle demande la paix. Mais Trump a d'autres priorités, comme on le sait, de ce temps-ci. Il y a l'affaire Epstein, il y a aussi le Venezuela, Gaza, etc. Et ce sont tous des dossiers dont il ne peut se débarrasser.
Et surtout, hein, que les sondages le démontrent, il est à un pire niveau d'impopularité qu'il l'a été lors de son premier mandat. Et en fait, il est encore plus impopulaire que l'avait été Biden à pareille date dans son mandat. Ça va pas bien pour lui. Un autre problème pour les Ukrainiens, c'est un énorme scandale de corruption qui touche le gouvernement.
Oui, des ministres sont soupçonnés d'avoir touché des pots de vin sur des contrats pour construire des structures défensives autour des centrales nucléaires ukrainiennes. Environ 100 millions de dollars auraient transité dans des opérations de blanchiment. Et ces accusations ne pouvaient évidemment pas tomber à un moment plus délicat alors que la population ukrainienne souffre de longues coupures de courant. La corruption qui est endémique en Ukraine nuit à la réputation du gouvernement et de la présidence Zelensky auprès des pays qui financent la guerre contre la Russie et ça inclut bien sûr le Canada. Les personnalités impliquées dans ce scandale seraient un ancien ministre de l'énergie depuis qu'il est devenu depuis ministre de la Justice, mais surtout un homme d'affaires proche du président Zelensky qui était très influent au gouvernement et dans les milieux de la défense, de l'énergie et de la télévision. Il a d'ailleurs fui le pays pour Israël, apparemment.
De plus, là, pour l'instant, les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre semblent être en suspens.
Oui, les plans d'un sommet entre Poutine et le président Trump sont mis de côté après que Moscou ait refusé de céder à ses objectifs de guerre maximalistes et que Trump ait imposé en retour des sanctions sur le pétrole et le gaz russe. Pendant ce temps, l'Union européenne ne s'entend toujours pas sur ce qu'il faut faire avec les quelques 180 milliards d'euros d'actifs russes gelés dans des banques en Europe. Cet énorme pactole pourrait être prêté à l'Ukraine puis remboursé éventuellement si la Russie versait un jour des réparations financières à l'Ukraine après la fin de la guerre. C'est un montage financier risqué et légalement très compliqué.
Bien, parlons de la population. Là. La population ukrainienne, elle doit être fatiguée. Là. Ça fait quand même 4 ans de guerre.
Oui, effectivement. Mais pourtant, en octobre dernier, lors d'un sondage fait par l'Institut international de sociologie de Kiev, 56 % des quelques 1000 Ukrainiens qui ont été interrogés se sentaient optimistes quant à l'avenir du pays. Poutine doit évidemment désormais espérer qu'avec un hiver difficile et des victoires sur le terrain, il viendra finalement à bout du moral des Ukrainiens qui ont cependant démontré jusqu'à maintenant une résistance et un courage exemplaire.
On note cependant que la menace russe a changé d'échelle en Europe.
Effectivement, ce n'est plus seulement l'Europe qui est attaquée. Le conflit se dépasse. L'Ukraine qui est attaquée, c'est le conflit maintenant se déplace ailleurs en Europe. Poutine cherche à faire peur aux Européens pour qu'ils cessent d'aider l'Ukraine. Une guerre hybride venant de Russie, faite d'incursions de drones, de désinformation ou d'attaques cyber, s'est intensifiée spectaculairement ces derniers mois. Des drones arrivés de nulle part, mais probablement russes, sèment le trouble autour de points stratégiques de l'espace aérien européen, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en Suède et même en France. Un affrontement de la Russie avec un pays de l'OTAN est aujourd'hui une menace plus sérieuse. D'ailleurs, les services de renseignement et les militaires de l'OTAN multiplient les avertissements. Si la résistance ukrainienne ou la cohésion de l'OTAN venait à faiblir, le risque d'une confrontation armée ouverte entre la Russie et l'Europe augmenterait d'autant.
Ah, mon Dieu, tout un... En tout cas, c'est une possibilité qui est assez difficile à voir, hein? Mais bon, on va essayer de rester optimiste.
Ouais, les experts parlent d'un horizon allant jusqu'à 2030 pour un possible conflit avec la Russie.
Bon, un règlement de paix donc semble donc très lointain. Hein?
Oui, Poutine est enhardi par les ambiguïtés de Trump et les hésitations de l'Europe. Ce qui pourrait avoir un impact sur sa politique serait qu'il ne puisse plus avancer en Ukraine sans subir des sacrifices économiques, sociaux et politiques qui mettraient en danger son pouvoir autocratique. Mais cela ne semble clairement pas le cas pour le moment. Et donc, l'OTAN doit assurer une aide constante et massive à l'Ukraine et continuer d'assumer le rapport de force face à la Russie. Poutine est persuadé que la pérennité de son pouvoir et sa place dans l'histoire dépendent du contrôle de l'Ukraine et d'une revision de l'architecture européenne. Le discours russe traduit de vieilles obsessions impériales, même si cette illusion coûte cher au plan des pertes en vies humaines et pour son économie. L'un des grands échecs de nos pays est de ne pas avoir pris Poutine au sérieux. Nous en payons maintenant le prix et il n'y a pas grande lumière au bout du tunnel. À moins, évidemment, que Trump ne change d'idée comme il le fait souvent et donne les moyens aux Ukrainiens de gagner la guerre.
Oui, parce que c'est ça l'enjeu. Ils ont besoin de ressources pour se défendre. Les ressources russes ne sont pas quand même illimitées. Je n'en reviens pas, là, parce que l'économie de ce pays-là ne va pas si bien que ça.
Non, et c'est une toute petite économie hein, quand on compare à l'économie mondiale, mais il reçoit bien sûr l'aide des Chinois, des Nord-Coréens, et même des Iraniens, parce que les fameux drones là, dont qu'ils lancent à qui mieux sur l'Ukraine, ce sont des drones d'origine iranienne, mais montés maintenant en Russie.
Wow. Bon, on n'est pas sorti du bois, mais on va garder d'espoir un peu. Ouais. Merci beaucoup, François Larochelle, ancien diplomate canadien.
Au revoir.
Je t'entends pas, là. Tu me parles, mais tu...
J'ai toujours eu le cœur à bonne place, le roman laissé en bonne main, si tu veux que je fasse. La chance croise pas souvent mon chemin, fait que je fais juste me péter la face pendant que tu te fauches dans ton coin, si tu veux qu'on fasse. Toi tu m'haïs, mais moi je t'aime bien. C'est pas la vie que j'aurais choisi, ce serait mentir, dire que je l'haïs. On a eu du fort dans maudit, mais on s'est écorché aussi entre les bras. Chaque shooter, ça gueule encore. Tant qu'à boire, on vide le bar. Nous autres, on sort jusqu'au Lascar. Quand ferme le bar, y'est pas trop tard pour boire la 24 qui est dans le char. Gauche et Rémi, on sort le fort. Soleil se lève, nous on s'endort. Pis viens donc faire tôt chez nous. Mandez à Péro, Zach, pis oui, comment que ça se passe à Saint-Félix. Pis viens donc faire tôt chez nous. Viens voir ce qui se passe.
Il s'appelle Arpin Lépine, la chanson c'est Saint-Félix.
Bien, nous allons parler maintenant d'un poète majeur de la littérature québécoise, Gatien Lapointe. Né et élevé en milieu rural, il est célèbre pour des œuvres primées comme Ode au Saint-Laurent et Le premier mot. Dans un nouvel ouvrage, Avec le cœur ouvert, édité par Jacques Paquin, on découvre une facette méconnue de cet écrivain. Il était celle de critique éclairé sur les arts visuels, le spectacle et la littérature. Jacques Paquin, merci d'être avec nous.
C'est un plaisir. Merci de l'invitation.
Oui. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Gatien Lapointe, qui est-il?
Alors, Gatien Lapointe est né en 1931. Il est né à Sainte-Justine-de-Dorchester, donc dans la région de Lac-Etchemin, dans les Appalaches. Et c'est un d'abord et avant tout un poète. Donc, il s'est fait connaître surtout pour une œuvre phare de la littérature québécoise qui s'appelait « Ode au Saint-Laurent », qui était suivi de « J'appartiens à la terre ». Donc, c'est le recueil qui l'a mis vraiment à l'avant-scène de la scène littéraire québécoise, mais également ça a débordé les frontières du Québec. Il a été traduit en plusieurs langues. Et par la suite, il a écrit également un autre recueil qui a obtenu également un grand succès, qui s'appelle « Le premier mot ». Là, on est en 1967. Et par la suite, il a développé, il a également publié d'autres recueils, mais pour les jalons importants de sa carrière, il est devenu également professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et il a fondé une maison d'édition qui existe encore aujourd'hui, les écrits des Forges de Trois-Rivières. Donc, ça donne. Donc, Gatien Lapointe est d'abord un poète, ensuite un professeur et un éditeur.
Oui, donc, qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce livre?
Ben, au départ, ça fait plusieurs années que je me consacre aux archives qui ont été déposées par la famille et les amis de Gatien Lapointe, aux archives nationales de Trois-Rivières. Donc, tous ses écrits, tous ses papiers, sa correspondance. Et donc, depuis un certain nombre d'années, j'ai commencé à vouloir mettre en valeur ces écrits-là. J'ai publié un journal intime. J'ai publié également une édition critique du recueil dont je viens de parler, « Ode au Saint-Laurent ». Et ensuite, je suis tombé sur des écrits critiques qu'il avait rédigés alors qu'il était en France, parce qu'il a obtenu une bourse de la Société royale du Canada pour étudier en France en 1956. Et pendant qu'il était en train d'étudier à la Sorbonne, il faisait une thèse sur Paul Éluard, il allait dans les expositions, dans les galeries, il allait au cinéma, il allait au théâtre, et quand il revenait dans sa petite chambre, toute petite chambre avec une seule fenêtre, il jetait sur papier ses impressions sur ce qu'il avait vu. Et donc, une bonne partie de ces écrits-là n'était pas destinée à la publication, mais il avait quand même fait de la critique avant de partir pour la France, la critique littéraire, et au retour également, il a poursuivi la critique littéraire, mais toute la critique artistique ou de théâtre reste inédite. Et donc, je me suis dit, ce serait peut-être une bonne idée de rassembler ces textes-là, mais j'avais un doute, je ne suis pas spécialiste de la critique de peinture ou de théâtre, donc j'ai approché deux collègues, un collègue Laurier Lacroix qui est spécialiste en art visuel et Hervé Gay qui est un spécialiste de théâtre et également de critique théâtrale. Je leur ai demandé leur avis, ils m'ont dit oui, c'est de qualité, ça vaut la peine. Donc j'ai rassemblé ces textes-là, j'ai les publiés.
Alors, Gatien Lapointe, comme on l'a dit, il était d'abord avant tout un poète, mais comment cet ouvrage qui rassemble ses critiques publiées et certaines aussi inédites change-t-il notre perception de l'homme, de son parcours intellectuel?
En fait, ce qui change peut-être, c'est peut-être la surprise de voir que Gatien Lapointe n'était pas seulement quelqu'un qui écrivait de la poésie, mais c'est quelqu'un, je pense, qui voulait aussi réfléchir, donc amener un aspect réflexion dans son parcours et peut-être aussi était tenté par l'écriture de l'essai ou l'écriture de la critique. Quand il y a une lettre où il écrit à sa directrice de thèse, il dit « Ma thèse, je voudrais que ce soit aussi une œuvre ». Donc, il pensait vraiment en écrivain. Je pense que c'est l'aspect important. L'aspect important de cet ouvrage-là, c'est qu'il pense, il continue à penser comme écrivain. Et ça, c'est peut-être la surprise qu'on peut avoir. Donc, c'est pas simplement une critique, mais c'est une critique d'écrivain. Je dirais pas que ça change totalement notre conception, notre perception de Gatien Lapointe, parce que c'est quelqu'un qui était très entier et très cohérent dans son imaginaire. Donc, il aborde les œuvres des autres comme un écrivain. Et donc, c'est pas simplement un compte-rendu purement technique des œuvres, mais il y met du sien. Donc, le choix du titre, d'ailleurs, de l'ouvrage, que j'ai tiré d'une de ses critiques, « Avec le cœur ouvert », donc c'est d'abord avec le cœur qu'il aborde les œuvres, non pas de manière purement cérébrale. Il en avait beaucoup contre les approches purement théoriques.
D'accord. L'avant-propos raconte que Gatien Lapointe a perdu son père à l'âge de 12 ans, Pas son père, mais lui, évidemment. Là, ce qui a déclenché son goût pour l'écriture, est-ce que cette quête d'expression se retrouve aussi dans sa démarche de critique d'art?
Oui, je pense que, comme l'écrivait d'ailleurs un des collaborateurs de l'ouvrage, je pense qu'il a mis un petit peu à l'épreuve. Ça a été une manière, peut-être un banc d'essai pour pouvoir s'exprimer à travers cette critique-là. Évidemment, la question du père n'est pas présente, mais il a déjà dit que le recueil, par exemple, le premier mot, c'est une manière de dire, d'exprimer son émotion à son père. Il était allé chercher une feuille, puis une feuille d'un arbre, là, j'entends. Il voulait l'avait déposé près de son père parce qu'il y avait de la difficulté à communiquer à l'époque. Et c'était le mot qu'il voulait donner à son père, et c'est peut-être ce qui l'a amené à l'écriture. Donc, quand il a écrit ces textes-là, probablement qu'il testait également son écriture pour pouvoir peut-être aller... parce qu'en même temps, il écrivait de la poésie. Hein. Oui. Donc, il pouvait tester les deux formes d'écriture, la prose et la poésie, et en même temps, toujours engagé dans une recherche d'études doctorales, donc pour alimenter sa réflexion sur l'œuvre d'Éluard, qui l'œuvre d'Éluard comporte beaucoup de relations avec les arts, donc ça venait un peu, unifier à la fois la poésie, l'écriture de la prose, et également les connaissances artistiques et théâtrales.
Dans son séjour à Paris, vous l'avez dit, il rédige des notes inédites sur des expositions, sur la culture parisienne. C'était quoi le but, finalement, de cette critique spontanée? Parce que plusieurs n'ont pas été édités, ou publiés, plutôt.
Oui, je pense que c'était une manière pour lui de mettre en mots les émotions ou les impressions qu'il avait, peut-être dans un but aussi de ramasser des données ou en tout cas de l'information sur les œuvres de l'époque, peut-être également pour entrer davantage dans le milieu parisien aussi, parce qu'il en parle pas beaucoup, mais il s'est quand même lié d'amitié avec quelques peintres de cette période-là, donc peut-être pour prendre contact avec le milieu littéraire ou le milieu théâtral. Il s'est fait quand même quelques amis au cours de cette période-là. Donc, je pense que déjà, il y avait cet aspect-là, mais effectivement, il a jamais daigné vouloir publier. La seule chose qui est restée un peu énigmatique, que j'ai noté également dans l'introduction, c'est que parfois, ces textes étaient chapeautés par ici, Gatien Lapointe, qui vous parle de la radio, d'une radio FM, par exemple, sur les ondes FM. Mais je n'ai jamais su de quelle radio il était question et si ça avait vraiment été diffusé. Alors, de ce point de vue-là, ça reste quand même une énigme. Donc, il y avait peut-être un désir de diffusion, mais je ne sais pas où est la source ou si ça a été vraiment diffusé à ce moment-là.
La veille de son retour au Québec, il a écrit « J'aurais envie de foutre le feu à tous les musées et toutes les bibliothèques. » Comment on peut expliquer ce rejet du modèle français, du moins?
Ben, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire, d'une part, Gatien Lapointe, même à travers toute son œuvre, ce qu'il a toujours valorisé, c'était la spontanéité, l'aspect de l'instant, donc de pas passer par le cérébral, mais plutôt par les sensations du corps, de l'émotion. Donc ça fait quand même partie de sa poétique. Hein. C'est quelqu'un qui... avec des titres comme « Le temps premier » ou « Le premier mot », c'est-à-dire « Il recommence toujours ». Donc, l'aspect très, très palpable, très terrien, hein, « J'appartiens à la terre », qui est le deuxième titre de son premier recueil, de son recueil le plus populaire. Donc, cet aspect-là est important. J'essaie de retrouver votre question en parlant. C'était sur... Ah oui, sur le...
Sur son rejet, oui, là, quand il dit « Je veux foutre le feu à tous les musées, à toutes les bibliothèques ».
Effectivement. Et donc là, il était en France et à ce moment-là, il commence à prendre conscience que même s'il s'est immergé, il était content de pouvoir s'immerger totalement dans la culture française, il prend conscience aussi du fait qu'il vient d'un autre pays. Il va dire, je publie la lettre où il dit à ses amis français, moi j'ai le goût de l'élémentaire, c'est-à-dire de la base, de la terre, et non pas de l'intellectuel. Et donc, il va se produire chez lui un rejet qui est probablement amené également par sa propre pratique de la poésie, hein, le Ode au Saint-Laurent, hein, dans la, le fleuve du Québec, j'appartiens à la terre, qui va toute une manière de repoussoir contre ce qu'il juge étant trop cartésien dans la culture française. Donc, ça va justement déterminer, et c'est un peu ça la source du recueil qui va avoir un grand succès, Ode au Saint-Laurent, parce que c'est une réappropriation finalement du territoire et de la culture québécoise de l'époque.
Alors, l'ouvrage Gatien Lapointe, avec le cœur ouvert, texte critique sur les arts visuels, les arts du spectacle et la littérature, édité par Jacques Paquin, avec la collaboration d'Hervé Gay et de Laurier Lacroix, c'est une publication donc des presses de l'Université de Montréal. C'est disponible en librairie. Merci beaucoup, Jacques Paquin, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, c'est un plaisir.
Un plaisir partagé, merci.
Au revoir.
De la météo, c'est de la neige presque partout au Québec et en Ontario. On a des avis de bourrasques de neige dans le sud ontarien. Et puis, c'est plus de la pluie dans l'est du Québec et du soleil dans le nord ontarien. Les températures, on va toujours être autour du zéro, là, plus ou moins 3-4 degrés de chaque côté du zéro. Il y a de la neige mêlée de pluie dans les provinces maritimes. On parle aussi de autour de zéro, là aussi. Puis, c'est plus de la pluie à Terre-Neuve. C'est plus chaud, 8 à 12 degrés, mais c'est de la neige et froid au Labrador, de moins 2 à 0. C'est chaud, plus chaud, 2 à 8 degrés dans les provinces de l'Ouest, avec du soleil dans le nord et pas trop dans le sud ou le contraire. Et, mon Dieu, on arrive à la toute fin. Merci beaucoup, Mathieu Tessier, à la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine.